VOA Afrique, avec vous Henri Francisque. Midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, au moins 12 morts et plus de 26 000 sinistrés. Tel est le bilan des vents violents et des inondations provoquées par des pluies diluviennes depuis juin. Les précisions d'Eddie Isango.
Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement de leurs habitations, souvent très précaires, dans ces pays sahéliens où 40% des 19 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. 35 blessés graves ont été enregistrés selon le secrétaire permanent du Conseil national des secours d'urgence et des réhabilitations, Yapene Florent Bakouane. À Ouagadougou, deux personnes ont été emportées par les eaux, tandis que quatre autres sont mortes à cause de l'effondrement de leur maison à Namisiguima, dans le nord. Dans les banlieues et bidonvilles de Ouagadougou, près de 10 000 personnes ont été déclarées sinistrées et 2 000 d'entre elles ont été relogées dans des écoles, selon M. Bakouane. Les dégâts sont graves. Entre autres, plus de 2 500 maisons sont endommagées et plus de 650 volailles sont également mortes. Les autorités burkinabées redoutent que la situation des intempéries empire, car selon la météo, la situation pluviométrique pourrait être cette année excédentairement anormale dans la plupart des régions.
En Guinée, 5 ans de prison requis hier contre un député du principal parti d'opposition en Guinée, dans le pays. Ousmane Gawal Diallo est poursuivi pour offense au président Alpha Condé. Le procureur a réclamé cette peine ainsi qu'une amende de 2 millions de francs guinéens, environ 250 euros, au terme d'un réquisitoire de 2 heures. Au Bénin, les étudiants des universités publiques renouent avec les manifestations qui conduisent dans la plupart des cas à la paralysie des activités académiques. Cette fois-ci, ils protestent contre le renvoi d'une vingtaine d'étudiants et l'invalidation de l'année académique à la faculté des arts et des lettres ainsi que les sciences humaines de la principale université du pays. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Pour les étudiants, la lutte sera sans merci parce qu'ils ne veulent pour rien au monde abdiquer.
La position des camarades, c'est l'organisation de la séance de rattrapage pure et simple. Et je crois que même les autorités sont conscientes de cela. Les étudiants en ont véritablement besoin. Chers camarades étudiants, la lutte continue parce que nous n'avons pas eu satisfaction. Tout ce qui nous a été proposé, c'est du leurre. Et je crois, nous avons entendu des gros français, semestre et paix, semestre impair. Je crois que ce n'est pas du tout ça le problème, non.
Nous avons constaté avec amertume que des décisions se prennent, disons, de manière unilatérale. Et ce sont ces décisions-là qu'on veut, disons, faire avaler à ces étudiants-là.
Les tentatives de négociation ont montré que les autorités veulent simplement se foutre de nous, quoi que nous allons observer un campus mort. Et je tiens à dire à tous les camarades étudiants qui quand même auront l'occasion de nous suivre en ce moment-là, de rester purement et simplement chez eux. De ne même pas chercher quand même à venir voir s'il y a cours ou pas. Parce que nous n'allons pas permettre effectivement qu'il y ait une activité académique sur le campus.
Cette nouvelle crise qui prend corps est comme une épée de Damoclès sur le monde universitaire, surtout que les responsables des associations d'étudiants font le tour des universités publiques pour mettre dehors leurs camarades qui viennent suivre les cours ou pour composer. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VOA Afrique.
La Zambie, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle d'hier, scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur malgré des semaines d'affrontements parfois violents entre les supporters du Front patriotique d'Edgar Lungu et les opposants du Parti uni pour le développement national de Hakainde Hichilema. En plus de ces deux favoris, 16 autres candidats étaient en lice. Les premiers résultats sont attendus ce soir ou demain samedi et la proclamation officielle dimanche. En RCA, c'est l'alerte maximale au lendemain de la déclaration de l'épidémie de choléra dans certaines zones du pays. Malgré la mobilisation des autorités et de l'Organisation mondiale de la santé, la psychose gagne de plus en plus la population. On fait le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Dans la foulée des mesures préventives, la Croix-Rouge centrafricaine a annoncé un numéro vert, le 4040, numéro sur lequel les populations peuvent appeler en cas de suspicion d'un malade de choléra. La Croix-Rouge va aussi mettre à la disposition du centre de traitement des épidémies les outils nécessaires et une équipe de volontaires. Son président, Antoine Baobogo.
Nous voulons interpeller le public centrafricain et en particulier les riverains du fleuve Bangui ainsi que tous les Banguissois hostiles. Respect des gestes d'hygiène élémentaires, de lavage de mains avec du savon à tout moment.
La mobilisation devient de plus en plus importante contre cette maladie dont le foyer est la ville de Ndjoukou, située à plus de 200 km de Bangui, précisément dans la préfecture de la Kémo, au centre du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Crise au Burundi, au moins 50 bébés naissent chaque semaine dans le camp Mahama, qui abrite environ 53 000 réfugiés burundais. Mais bien que ces réfugiés vivent dans des conditions difficiles, ils ne perdent pas espoir. Karine Kaneza Nantulia, la porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, a récemment visité le camp Mahama. Son témoignage au micro d'Eric Manirakiza.
Ce que j'ai vu, c'est tout un peuple. Ils sont à peu près plus de 53 000 réfugiés dans ce camp en particulier. Il faut noter évidemment qu'il y a d'autres camps, hein, en Tanzanie, au Congo et ailleurs, en Ouganda aussi. Une majorité de femmes, d'enfants, femmes âgées, moins âgées, des jeunes, et aussi des classes sociales disparates. C'est un cocktail de personnes de tout âge, de toute profession. Ce que j'ai vu aussi, c'est le désespoir d'un peuple, c'est les attentes de toute une génération. C'est le malheur, c'est la peur, c'est l'angoisse, l'angoisse du lendemain, mais aussi certains refus, parfois qui déclinent, qui s'effacent, qui s'éteint, et par moments qui se rallument.
Quel genre de refus ?
Le refus de laisser tomber l'espoir, hein, le refus de mourir. Il faut comprendre que ces gens, ces femmes, ces enfants, ces hommes sont partis au péril de leur vie. La plupart échappés à la mort, à des harcèlements, à des menaces de mort, à des tentatives d'assassinat. Ce que j'ai remarqué, c'est que bien que la peur reste vraiment au creux de leur ventre, on sent la peur, on sent l'angoisse, ne pas vouloir parler ouvertement. Mais aussi, j'ai pu sentir l'espoir, un petit espoir que demain sera meilleur que leurs aujourd'hui, en fait.
Vous avez dit qu'il y a 53 000 réfugiés dans ce camp. Est-ce que c'est une population qui augmente, qui diminue? Qu'est-ce qui se passe réellement?
Ce nombre d'hommes, de femmes et d'enfants ne peut qu'augmenter. Et donc, ce nombre augmente de façon naturelle, parce qu'il y a des naissances, parce qu'il y a une très forte proximité entre les individus. Par exemple, l'un des chiffres que j'ai pu relever, c'était qu'il y a quand même 50 naissances par semaine, ce qui est énorme, énorme. Et il faut aussi noter que ces réfugiés continuent à augmenter. Les gens, la population burundaise, continue à fuir le pouvoir de Bujumbura.
Dans ces camps, est-ce qu'ils passent toute la journée à s'asseoir, à dormir, des activités qui s'y pratiquent?
Plusieurs ces jeunes se mobilisent, s'organisent autour d'activités sportives, d'activités culturelles. Je me rappelle avoir les larmes aux yeux en regardant un groupe de jeunes enfants, de petites filles qui étaient en train de s'entraîner et qui ont fait une chorégraphie de musique traditionnelle. Il y avait de jeunes adolescents qui ont dansé sur une chanson assez célèbre de l'un des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est.
Karine Kaneza Nantulia, du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Présidentielle américaine, la candidate démocrate Hillary Clinton a présenté jeudi son programme économique qu'elle a contrasté avec celui de son adversaire républicain Donald Trump. Les détails avec Timothée Donangmaï.
S'adressant aux ouvriers d'une usine du Michigan, Mme Clinton a assuré que son programme aidera de nombreux Américains, contrairement à celui de Donald Trump qui, selon elle, se limite à offrir des milliers de milliards de dollars d'abattements fiscaux aux riches comme lui. Le plan de l'ancienne secrétaire d'État prévoit notamment une revalorisation du salaire minimum fédéral qui est actuellement de 7,25 $, ainsi qu'un appui accru du gouvernement aux petites entreprises. La candidate démocrate a appelé à la constitution d'une banque des infrastructures dotée d'un capital de 25 milliards de dollars qui créera 10 millions d'emplois à travers de grands projets de construction et de remise en état des infrastructures nationales de transport, le plus important investissement depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle souligné.
Nous mettrons les Américains au travail pour construire et moderniser nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos chemins de fer, nos ports et aéroports.
Notant que son adversaire républicain avait présenté son programme économique à Détroit dans le Michigan, Mme Clinton a dit que ce programme ferait perdre 3 millions d'emplois aux États-Unis.
Même les experts conservateurs disent que le programme de Trump fera retomber notre économie dans la récession.
La candidate démocrate a décrié la manière dont l'homme d'affaires Trump aurait traité les petites entreprises ayant travaillé sur les chantiers de ses casinos le long de la côte atlantique ou ceux de ses gratte-ciel de New York. Il ne les a pas payés, non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas, a martelé l'ancienne secrétaire d'État.